Voilà, je vous propose que nous commencions notre soirée. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous qui est devenu désormais depuis 7 ans familier à beaucoup. Je reconnais un certain nombre de visages. Habituellement le premier mardi de chaque mois. Et c'est une joie de vous retrouver un peu en cette rentrée comme une famille qui se retrouve. Bienvenue donc pour cette 62e soirée d'éthique publique, la première de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris, en partenariat avec la revue Études, et je suis heureux de saluer le père François Heuvé, le rédacteur en chef de la revue, qui est avec nous ce soir. Je voudrais également remercier en votre nom le père Henri Lot, qui l'année dernière a assuré la coordination et l'animation de ces rencontres, et sur lequel je sais pouvoir compter pour garder un œil intéressé et bienveillant sur ces soirées. Bienvenue surtout à ceux qui viennent pour la première fois dans ce lieu de réflexion et de débat. Je crois qu'il n'est pas très difficile de constater que face aux enjeux parfois compliqués dans les différentes réalités de nos vies, réalités sociales, éthiques, politiques, professionnelles, internationales, ecclésiales, nous avons besoin de réfléchir, nous avons besoin de nous éclairer mutuellement. C'est un enjeu intellectuel et spirituel qui nous tient à cœur ici, au Centre Sèvres, de prendre les moyens pour essayer de comprendre ce monde et nous tenir autant que c'est possible informés des questions qui traversent nos sociétés, nos vies. Important aussi d'avoir des espaces de dialogue simples et sans prétention, mais où une parole personnelle, libre et respectueuse d'autrui est possible. Et voir comment, personnellement et collectivement, eh bien, il nous est possible de nous situer. Donc, pas de conférence académique exhaustive sur un sujet, mais bien une invitation à nourrir notre réflexion, notre agir, à partir de la parole de 2 ou 3 personnes qui vont partager simplement, modestement et en confiance comment ils perçoivent les enjeux de telle réalité. Avant, bien sûr, d'ouvrir la parole et d'échanger entre nous. Comme vous le savez, le programme des soirées n'est pas fixé de manière définitive pour toute l'année. Il s'élabore au fur et à mesure des mois pour être mieux à l'écoute de ce qui bouge, de ce qui pose question dans l'actualité des jours, mais aussi au-delà, je dirais, de la rumeur des vagues de surface, faire droit aux questions de fond. Le mois prochain, le mardi 3 novembre, nous nous intéresserons à la conférence sur le climat, qui, vous le savez, aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Va-t-on vraiment pouvoir changer les choses? Ça sera le titre de notre conférence, de notre soirée débat, avec notamment pour nous aider à réfléchir Jean Jouzel, qui est climatologue, qui est vice-président du GIEC, le groupement intergouvernemental d'experts sur le climat, Bernard Perret, qui est ingénieur et socio-économiste au ministère de l'écologie, et Alain Grandjean, économiste également, qui est membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et co-auteur du rapport « Mobiliser les financements pour le climat » qui a été remis il y a quelques mois, donc mardi 3 novembre à 19h15. Et puis en décembre, le 1er décembre, eh bien, il nous semble important de revenir sur les questions que pose à l'Europe l'arrivée des réfugiés. Ce drame n'est-il pas aussi le révélateur d'une crise existentielle de l'Europe? Je rappelle qu'il est possible de s'inscrire à l'accueil ou au secrétariat si vous désirez être informé par mail du thème de la prochaine rencontre, de même qu'il est possible d'écouter ou de réécouter l'enregistrement de la soirée, et de toutes les soirées précédentes d'ailleurs, sur le site internet du Centre Sèvres, www.centresèvres.com. Depuis plus de 3 ans, c'est peu à peu constitué un réseau qui ne cesse de grandir, on pourrait dire d'amis de ces soirées autour d'une paroisse ou autour d'une communauté religieuse ou de la formation permanente d'un diocèse qui en plusieurs endroits eh bien, suivent ces rencontres en direct avec nous. Dans la plupart des cas, ce n'est pas un simple relais vidéo avec un public sur place, mais c'est l'occasion en chaque lieu de continuer le débat après la retransmission. Alors je ne résiste pas au plaisir en ce début, dans cette rentrée, de saluer nos amis qui étaient déjà avec nous l'an dernier pour une bonne part, parfois même depuis longtemps, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Strasbourg, Poitiers, Aix-en-Provence, Grenoble, Saint-Étienne, Perpignan, Rouen, sans oublier évidemment Athènes. Et ce soir, je suis très heureux d'accueillir une nouvelle ville qui nous rejoint. Bienvenue à nos amis de Vannes, à qui j'adresse un salut tout personnel. Alors un dernier mot avant d'aborder le thème de ce soir, pour vous inviter, si vous ne l'avez pas fait encore, à découvrir les propositions du Centre Sèvres. Vous avez repéré qu'à la sortie, il y avait des tracts, des dépliants, des programmes qui sont à votre disposition. Vous pouvez aussi trouver le programme général sur le site internet du Centre Sèvres et vous pouvez même vous inscrire en ligne. N'hésitez donc pas à en parler autour de vous. Voilà, je crois qu'il est temps de rentrer dans le thème de notre soirée qui nous fait résonner à ce qui est en train de se passer à Rome. On se souvient que le pape François, qui depuis le début de son pontificat porte une attention particulière à la famille, a convoqué deux synodes sur ce thème, un synode extraordinaire sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation » qui a eu lieu l'an dernier, du 5 au 19 octobre 2014, et un synode ordinaire sur le thème « La vocation et la mission de la famille dans l'Église et le monde contemporain » qui donc a commencé dimanche dernier et se tiendra jusqu'au 25 octobre prochain. Une manière nouvelle de procéder en deux temps, voulu par le pape lui-même, pour laisser du temps précisément à la consultation du peuple de Dieu, à la réflexion, au discernement, le pape rappelant la nécessité dans ce travail synodal de se laisser avant tout guider par l'Esprit-Saint. On se souvient que les travaux du synode il y a un an ont permis un vrai débat, avec ouverture et franchise, face aux évolutions qui affectent la famille dans les sociétés contemporaines, et le document de travail, l'Instrumentum Laboris, rendu public en juin dernier, le document donc préparatoire à la seconde assemblée synodale qui vient de commencer, comporte trois parties qui sont un peu comme le fil conducteur des trois semaines de l'assemblée synodale. D'abord l'écoute des défis sur la famille, qui renvoie plus directement à la première session, à la première période synodale. Ensuite le discernement de la vocation familiale, et enfin, la mission de la famille aujourd'hui. On peut dire que ce document fait en quelque sorte la synthèse entre des ouvertures prudentes et la réaffirmation de la doctrine du mariage entre un homme et une femme. Alors nous le sentons bien, c'est un synode important pour au moins deux raisons. D'abord, il suscite de l'intérêt, loin des cercles catholique, parce qu'il touche une question centrale de la société. Et ensuite, il suscite un débat interne important dans l'Église sur certains points de la pastorale, morale et familiale. Alors, comment l'Église doit-elle se situer? Finalement, qu'est-ce que l'Église va dire d'elle-même à l'occasion de ce synode? Et comment avancer dans l'unité? Sachant qu'en pratique, le synode remet au pape à l'issue des travaux une série de propositions qui n'ont de valeur que consultative, le pape demeurant souverain quant à ses décisions. Alors, pour nous aider à réfléchir aux enjeux d'une parole d'Église sur ces questions, je suis très heureux d'accueillir en votre nom nos trois invités. D'abord, Mgr Pascal Winser, vous êtes archevêque de Poitiers depuis janvier 2012, après en avoir été l'évêque auxiliaire, et vous êtes notamment l'auteur d'un ouvrage paru en août dernier pour aider à entrer dans les enjeux du synode. En chemin vers le synode, proposer une espérance aux familles, qui est paru chez Bayard. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Madame Monique Beaujard, ce n'est pas la première fois que nous avons la joie de vous accueillir ici. Mariée, mère de famille, vous avez passé 6 ans à la tête du service famille et société de la Conférence des évêques de France. Poste privilégié peut-être pour sentir beaucoup de choses des enjeux du synode. Vous venez de publier un livre d'entretien interrogé par Dominique Quignot, « L'Évangile, c'est pour aujourd'hui, Église, famille, société » paru il y a juste quelques jours chez Bayard. Et plus précisément, encore sur notre sujet, vous avez écrit dans le numéro de la revue Études du mois de septembre un article intitulé « le synode, un lieu d'apprentissage de la pluralité et du dialogue. Merci Monique de votre présence. Enfin, le père Étienne Grieux, jésuite théologien, vous êtes le doyen de la faculté de théologie du Centre Sèvres. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, je n'évoquerai que le dernier, un livre à trois voix, « Trois générations de prêtres », un livre de témoignages, dont le vôtre, de prêtres qui se situe par rapport au Concile Vatican II et qui est paru cette année chez Salvator. Et tout récemment, sur les enjeux du synode, vous avez écrit dans le même numéro d'études de septembre un article intitulé « Le synode sur la famille, rendez-vous crucial ». Voilà, les présentations sont faites. Je vous laisse la parole sur les enjeux d'une parole d'église à l'occasion de ce synode. Un quart d'heure environ d'intervention avant le débat avec la salle. Monseigneur, vous avez la parole.
Merci. Bonsoir à chacune et à chacun. J'ai choisi de parler non pas tant de la famille, mais du contexte dans lequel se situent la famille et le synode. Je ne vais donc pas redire ce qui est écrit dans ce petit livre que je vous invite à lire, éventuellement à acheter. Ça rendra service à mon diocèse puisque c'est lui qui perçoit les droits d'auteur. Et il en a besoin comme bien des diocèses en France. Et je pourrai répondre bien sûr à des questions plus précises tout à l'heure. Mais je voudrais inscrire ce synode et cette question de la famille sur un horizon plus vaste, celui des changements intervenus dans les années 60. J'en retiens trois. Vatican II, Mai 68 et Humanévité. Quels que soient les jugements portés, ces années expliquent notre présent. On peut même noter que ceux qui peuvent être les plus critiques de cette période sont aussi les enfants de cette période. Et ils sont souvent bien plus modernes que traditionnels dans leur comportement, même si parfois leur discours ou leur jugement sur la période des années 60 peut laisser penser le contraire. Donc je souligne comment ces trois événements expliquent notre présent. D'abord Vatican II qui exprime un nouveau style. On voyait que d'ailleurs ce mot sont évoqués tel ou tel théologien de la compagnie en particulier. Vatican II, un nouveau style. Tout simplement, d'abord et très concrètement, par l'absence des formules classiques qui existaient dans tous les conciles, formules de définition dogmatique et formules d'anathème. Il n'y en a pas à Vatican II, ce fut un choix. Et puis, et c'est sur quoi je vais insister, par la volonté d'articuler le pastoral et le doctrinal. Vatican II, en effet, a voulu être un concile pastoral. Par ce choix, par cette méthode, le concile ouvre le chemin, il existait quand même, mais le concile ouvre le chemin, ou choisit ce chemin, d'une forme d'annonce de la foi qui privilégie l'expérience personnelle, la rencontre, l'expression d'une foi vécue, etc., plutôt qu'une seule proclamation dogmatique. Mais, en même temps, il serait faux d'opposer le pastoral et le doctrinal. Vatican II est aussi un concile doctrinal qui dit la foi de l'Église, mais incarnée, vécue dans ce qu'est le contexte de la vie des hommes. Et permettez-moi quand même quelques petites citations. Pour le père Congar, dominicain, le concile fut à la fois doctrinal et pastoral. Je le cite, « Le pastoral n'est pas moins doctrinal, mais il l'est d'une manière qui ne se contente pas de conceptualiser, définir, déduire et anathématiser. Il veut exprimer la vérité salutaire d'une manière qui rejoigne les hommes d'aujourd'hui, assume leurs difficultés, réponde à leurs questions. » Je redis sa dernière ligne, car il me semble qu'elle est vraiment ce sur quoi nous sommes inscrits aujourd'hui. Donc, dire la vérité du salut, le mystère de la foi, de manière qui rejoigne les hommes d'aujourd'hui, assument leurs difficultés, répondent à leurs questions. C'est donc bien la manière dont l'Église, les chrétiens, considèrent le monde, les hommes et les femmes, qui préside à cette manière d'être que choisit le Concile. Ici, Je pourrais citer le jésuite Karl Rahner, qui s'exprime ainsi dans son livre « Le courage du théologien ». Je crois que la chose la plus importante du Concile, c'est le courage qu'a eu l'Église de regarder en face le monde moderne d'une façon qui n'avait jamais existé auparavant. Si on compare l'Église d'avant et d'après Vatican II, on y voit un passage d'une idée plutôt négative, défensive, à une attitude plus ouverte et positive. À mon avis, dit Rahner, c'est vraiment là une des grandes valeurs du Concile et elle a une extrême importance pour aujourd'hui. Donc ce regard sur le monde, cette manière de le considérer. Si je parle ainsi, c'est bien pour souligner que la manière dont le synode travaille s'inscrit dans ce style de Vatican II. Un style qui n'est pas moins exigeant, en particulier pour les évêques, puisqu'il s'agit non pas uniquement de redire les mêmes choses qu'hier et que toujours, mais de dire, pour aujourd'hui, pour ce que vivent les hommes, en quoi l'Évangile est bonne nouvelle. Qui dit pastoral dit tout autant théologique et doctrinal. Et écoutez encore comment le père Congar montre de manière incisive cela dans son journal du Concile. Il écrit cela en 1960. Il parle des évêques, donc je m'autorise à citer ces phrases de Congar. Un grand nombre d'évêques sont incapables d'avoir une vue d'ensemble des questions, surtout de leurs aspects idéologiques et théologiques. Ils sont au ras des préoccupations pastorales immédiates. C'est un peu vrai. De plus, ils ont tellement perdu l'habitude d'étudier et de décider par eux-mêmes. Ils sont tellement accoutumés à recevoir les décisions toutes faites de Rome, si ce n'est même avoir condamné et supprimé ce qu'ils avaient, eux aussi, estimé bon. Ici, Congar vise la question des prêtres ouvriers et celle du catéchisme. On peut donc souhaiter une vraie fraternité dans l'Église, en particulier entre les évêques, durant ce synode. La fraternité, écrit Étienne Grieux, prend consistance quand nous lui faisons réponse, c'est-à-dire quand nous engageons notre propre liberté et parole pour accueillir le don de Dieu qui passe par l'autre et lui faisons écho. Vatican II, un nouveau style, enfant également de mai 68. Je parle de moi, je ne veux pas parler pour vous. Sitôt passée l'euphorie du Concile, le mouvement exprimé par mai 68 a secoué la société et l'Église. Toutes les formes d'autorité et de pouvoir furent remises en cause. L'Église et les prêtres n'y échappèrent pas. Et nous vivons dans cette situation. Il faut être crédible pour être entendu. Il faut manifester de la compétence et pas seulement théologique. Surtout de la compétence dans la relation humaine et dans aussi l'animation des groupes humains. C'est la première attente exprimée à l'endroit des prêtres. Est-ce qu'il sait avoir une relation juste avec nous? Attendu des prêtres et attendu des évêques. Et sans doute c'est la première qualité reconnue aujourd'hui au pape François. La relation, la qualité de relation. À la suite de mai 68, s'est manifestée aussi une exigence plus forte de débat dans l'ensemble de la société et dans l'Église et de démocratie. Pourtant, même les plus classiques aujourd'hui sont aussi des enfants de 68, jusqu'à peut-être un ancien président de la République qui aimait dénoncer mai 68 dans ses propos, mais vivait à plein la liberté des enfants de 68. Même si l'individualisme, le pluralisme, voire le relativisme sont dénoncés dans certains des propos des plus classiques des membres du clergé, ils sont souvent les caractéristiques non explicites de bien des comportements dans l'Église et dans le clergé. J'en prends quelques exemples et je me mets sans doute dans le lot. C'est le choix d'une filière de formation, y compris d'un séminaire. C'est la prise de distance vis-à-vis des orientations pastorales d'un diocèse et des services d'un diocèse. C'est l'attention aux conditions de vie matérielle. C'est le souci de l'épanouissement personnel, etc. Toutes ces attitudes font certes des enfants de l'Église, mais aussi des enfants du siècle des Lumières, des Trente Glorieuses, de mai 68, si on veut, du giscardisme avancé. Ça fait aussi des générations Mitterrand, et pourquoi pas des générations Jean-Paul II. C'est tout à la fois, et c'est tout ce que nous sommes. Quant à Vatican II, on a constaté que même si les références philosophiques des pères du Concile étaient souvent des années d'avant-guerre, ou de l'immédiat après-guerre, en particulier le personnalisme d'Emmanuel Mounier, cependant, les pères de Vatican II ont su entendre et anticiper la nouvelle relation à l'autorité qui sait ce qui sait et qui triomphera plus tard avec mai 68. L'attitude qui ne fait pas dépendre l'obéissance de la seule autorité de celui qui parle, mais de la crédibilité de ce qu'il annonce et du bienfait qu'il apporte pour la vie. Puis troisième point, le troisième point, donc au sujet d'Humanévité. Humanévité est publié, donc vous le savez, durant l'été 68. L'encyclique a opéré avant tout une rupture silencieuse entre nombre de catholiques et l'autorité morale de Rome. Selon un sondage de l'époque, au moment de la publication, 91% des jeunes de 15 à 24 ans estiment ou estimaient que l'encyclique ne modifiait pas leur propre position à l'égard des contraceptifs. Et 69% des femmes désapprouvaient les propos de l'encyclique. Congar écrivit dans une lettre du 28 octobre 1968 « Je ressens très fort et très douloureusement la gravité de la crise actuelle portant sur une certaine autorité et un certain exercice du magistère. Elle est peut-être définitive. Il se pourrait que Rome ait perdu en un coup ce qu'elle a mis 16 siècles à construire. » Humanévité joue donc un rôle décisif, d'une part dans le rapport à l'autorité de l'Église, mais aussi dans une rupture progressive entre le catholicisme et les femmes. La chose est nouvelle, puisque les femmes n'auront en France le droit de vote, vous le savez, qu'en 1945. La République craignant que leur vote soit dicté par l'Église et par le curé de la paroisse. Mais il en est peut-être encore ainsi, peut-être que Monique sait écouter qui lui dit pour qui voter. Bref, elle nous dira ce qu'elle veut. Ceci se manifestera donc encore quelques années plus tard, au moment des débats autour de l'avortement. Ce refus d'humanévité du texte, de ce qu'il exprime, est d'autant plus fort que dans la société, ce qui semble demeurer, je parle maintenant au présent, comme espace de liberté, c'est l'intime. Le reste, la vie sociale, la vie professionnelle en particulier, sont encadrés par de multiples lois. Les personnes ont l'impression que de moins en moins, elles n'ont de liberté. Alors, lorsque l'Église à la fois pénètre l'intime, ici la vie la plus intime qui soit, et prétend régir cet intime, espace encore de liberté, on comprend qu'elle soit mal accueillie. Bref, derrière cela, ce qui se manifeste, c'est la sortie de la société française du catholicisme. Certes, il y a des catholiques en France, et ils sont nombreux, à Paris, à Poitiers et ailleurs, mais ils vivent désormais dans un pays qui n'est pas catholique dans ses institutions, ce qui est normal et nécessaire, et qui ne l'est sans doute plus dans sa culture. D'où, ce sera la conclusion de mon petit propos, être catholique en France en 2015, c'est le choisir. Demeurer catholique suppose d'en affermir les raisons. Comment le faire si on ne travaille pas pour disposer de motifs de crédibilité de la foi? Sans cela, on sera balayé, emporté par le foisonnement des questions posées et par le foisonnement des opinions exprimées. Sans travail, sans réflexion, sans culture, on est désarmé. Et lorsqu'on est désarmé au plan intellectuel, il ne reste que le sabre ou la kalachnikov. On dit que les combattants de Daesh, entre les massacres qu'ils perpétuent, n'étudient guère le Coran, qu'ils ne connaissent pas, mais regardent les séries télévisées américaines et jouent aux jeux vidéo. Je craindrais que les catholiques ne suivent cet exemple s'ils n'avaient ni formation ni réflexion. L'absence de culture, c'est le pire qui soit. Dans 2084, Boualem Sansal écrit, hein, plusieurs ont dû lire ce livre, hein, voilà, donc je ne rappelle pas ce que dit ce livre, hein, mais je cite simplement ce propos. Donc il parle, enfin, je dis quand même le contexte, hein, il parle d'un monde, 2084, dominé par un système totalitaire religieux. Je cite juste deux lignes de ce livre. Le détail étant l'essentiel dans la pratique, tout a été codifié, de la naissance à la mort, du lever au coucher du soleil. La vie du parfait croyant est une suite ininterrompue de paroles et de gestes à répéter. Elle ne lui laisse aucune latitude pour rêver, hésiter, réfléchir, mais croire éventuellement, croire peut-être. Alors, au sujet de la famille et du synode, voici ce que l'on pourrait attendre. L'ancrage dans l'écriture, l'ancrage dans la réalité de la vie, l'absence de peur vis-à-vis du monde et puis du travail. J'ajoute qu'un synode est une liturgie et un chemin. Chacun est changé par l'expérience vécue lors d'un synode. Les propos tenus à son terme ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient tenus dans les premiers jours. Je l'ai constaté lors du synode de 2012, consacré à la nouvelle évangélisation. J'étais un des membres de ce synode envoyé par les évêques de France. Un synode, et je reprends juste cette expérience, 2012, un synode donne d'expérimenter la force de l'institution. Là, je parle de l'Église catholique à Rome, la force de l'institution. Peut-être une limite de cette institution, parce que des paroles charismatiques et fortes sont arasées par l'institution et par la moulinette qui cherche à produire un texte qui soit bien cadré. Et en même temps, c'est une chance et une force, celle d'une parole qui n'est pas celle d'un individu isolé, mais qui est portée par une expérience, celle des évêques et celle de leurs églises. Je retiens du synode de 2012 qu'un choix est à faire pour l'Église. Être chrétien dans une société qui n'est plus une chrétienté, dans un monde laïque et sécularisé. Et puis, une alternative, se situer en marge ou en opposition à la société. Ce choix, il est là, on voit qu'il est fait, et qu'il est fait de manière forte par certains. Que choisissons-nous ? Être de ce monde ou bien en marge ou en opposition. J'espère qu'à travers ce que je dis, on comprend ce que je pense et ce que j'essaie de vivre. Les propos tenus par le synode de 2012 furent clairs. Ils choisirent résolument la première attitude. Et je termine par une dernière citation, celle du père Joseph Thomas, dans un article repris dans le numéro de Christus de mai dernier. Pourquoi l'Église craindrait-elle la nouveauté du monde ? Elle qui n'existe que dans l'attente d'une nouveauté radicale. Notre audace à changer ce qui doit être changé est un vrai témoignage et le principal service que nous avons à rendre aux hommes prisonniers du tourbillon de l'histoire. Merci.
Merci, Monseigneur, de nous avoir présenter cet horizon plus vaste des changements dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, qui dit des choses aussi du contexte dans lequel justement travaille le synode, Vatican II, son style nouveau, mai 68, avec notamment la remise en cause de l'autorité, l'encyclique Humanae Vitae, cette rupture silencieuse entre nombre de catholiques et le magistère. Et puis on a bien entendu votre invitation à avancer, à prendre les moyens de fonder et d'enraciner notre foi pour ne pas être tenté peut-être par quelques dérives sectaires, un ancrage dans l'écriture, dans les réalités de la vie, pour précisément ne pas nous situer en marge ou en opposition avec la société. Monique, vous devez continuer à nous aider à réfléchir sur cet enjeu d'une parole d'Église.
Bonsoir à tous. Peut-être une petite réponse au père Winzer sur le vote des femmes. À vrai dire, l'Assemblée nationale avait déjà accordé le vote aux femmes en France en 1919 ou quelque chose comme ça. Et à un moment donné, ça a été bloqué, en fait, par le Sénat qui craignait que les femmes suivraient l'avis de leur curé pour le vote. Donc, à l'époque, la République ne faisait pas confiance aux femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, les évêques font confiance aux femmes? C'est maintenant la question. Voilà, pour parler de ce synode, je trouve dommage personnellement qu'on parle surtout de la question de l'accès à la communion des divorcés remariés et de l'accueil des personnes homosexuelles. Non pas parce que ces questions-là ne sont pas importantes, loin de moi l'idée, mais ce n'est que peut-être la partie émergée de l'iceberg, ou plutôt c'est ce qui cristallise tous les regards, parce que c'est ce qui est le plus représentatif d'une incompréhension aujourd'hui de l'enseignement de l'Église. Et je crois que si le pape a choisi la famille comme thème de ce synode, sachant bien que ça n'allait pas être facile, c'est parce qu'il veut essayer de dépasser ces incompréhensions. Parce que ces incompréhensions sont aujourd'hui telles, et Mgr Winzer l'a très bien dit, Humanité y a largement contribué, qu'elles deviennent un obstacle à l'évangélisation. Beaucoup de gens n'en font plus le lien entre leur foi et leur vie intime. Alors, si vous avez tout un pan de votre vie qui échappe à la foi ou à ce que vous pensez, eh bien, comment vous allez témoigner de l'Évangile? Je pense que c'est ça la visée lointaine du pape. Comment intégrer finalement l'enseignement de l'Église sur la famille de façon à ce que chaque famille fasse l'expérience de la joie de l'Évangile et peut en témoigner. Et à tous ceux qui peuvent éventuellement, par la suite, être déçus parce qu'ils pensent que l'Église devrait radicalement changer de doctrine, et je crois que le cardinal archevêque de Paris vient de dire hier déjà qu'il ne fallait surtout pas attendre ça, je ne pense pas en fait qu'il faut attendre ça. Mais ce que j'aimerais vous inviter à regarder, c'est tout ce que le pape François met déjà en œuvre comme changement de l'Église. Le pape François, à travers ce synode, le pape François a une vision de l'Église, une Église missionnaire. Le pape François est aussi d'une génération qui a vu Vatican II, 68 peut-être un peu moins, là où il était. Mais sa vision plonge ses racines dans le Concile Vatican II. Il l'a exposé en Evangelii Gaudium et il le met déjà en œuvre dans le synode. Et il fait bouger notre Église déjà sans crier gare. Il n'annonce pas de grandes réformes, mais si vous regardez bien, il les met en œuvre. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous raconter rapidement. Cette vision de l'Église du pape François est basée sur le dialogue, une Église qui est en dialogue. Paul VI le disait dans son premier encyclique, Ecclesiam Suam, qui est entièrement consacré au dialogue. Mais cette idée du dialogue se trouve surtout dans Dei Verbum, où il a dit que la révélation s'est faite en dialogue, que le dialogue du salut, c'est Dieu qui en a pris l'initiative en envoyant son Fils dans le monde. Et que donc toute la révélation passe par un dialogue. Et dans ce même texte de Vatican II, Dei Verbum, il est aussi dit que les laïcs ont un rôle à jouer dans ce dialogue pour la transmission de la révélation. Il a dit plus exactement, cette tradition qui vient des apôtres progresse dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. En effet, la perception des réalités, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît soit par la contemplation et l'étude des croyants qui la méditent en leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des réalités spirituelles. Donc ce texte de Vatican II fait déjà une large place aux laïcs, à leur compréhension des réalités et à leur apport nécessaire dans ce dialogue pour la transmission de la foi. Et Dei Verbum souligne aussi le rôle des exégètes et des théologiens, dont il dit que le travail contribue au mûrissement du jugement de l'Église. Et dit que ce dialogue, il est constant. C'est un dialogue constant que l'Église doit entretenir. Et donc, à ce moment-là, la transmission de la foi n'est plus quelques vérités qui se tiennent dans des petits paquets bien emballés, bien ficelés, et qui descendent du haut en bas, et que vous devez digérer, même si c'est indigeste. Non, la vérité est quelque chose qui se cherche, qui s'élabore, tous ensemble. La vérité, c'est quelque chose dont on témoigne, et non pas quelque chose dont qu'on détient. C'est très différent. Si le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », la vérité est une personne, ça veut dire que vous ne la détenez pas. Vous pouvez en témoigner. Et vous voyez ça quand quelqu'un vient à décéder. Vous pouvez avoir 10 témoignages, sa famille, ses collègues, etc. 10 témoignages différents qui seront tous authentiques, qui diront tous vraiment quelque chose de la personne et pourtant n'épuiseront pas la personne, ne diront jamais le tout de la personne. Donc cette attitude-là que Vatican II, dans Dei Verbum, nous donne déjà, le pape, dans Evangelii Gaudium, le dit encore plus explicitement. Il insiste beaucoup sur le dialogue, c'est vraiment le mot-clé qui, dès le début de son pontificat, rencontre-dialogue, ce sont les deux mots qui viennent tout le temps, dès son voyage au Brésil pour les JMJ. Mais il insiste aussi donc, sur ce rôle des laïcs. Et il dit, par exemple, dans le numéro 119 d'Evangelii Gaudium, « Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l'Esprit qui incite à évangéliser. Dieu dote la totalité des fidèles d'un instinct de la foi, le sensus fidei, qui les aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La présence de l'Esprit donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec la réalité divine et une sagesse qui leur permet de la comprendre de manière intuitive, même s'ils ne disposent pas des moyens appropriés pour les exprimer avec précision. » Et puis il continue en disant « En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et les niveaux d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Et, c'est là où ça devient particulièrement intéressant, il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Le pape donne à ce moment-là l'exemple de la Samaritaine ou des premiers apôtres qui ont bien dû partir en chemin sans avoir fait un doctorat de théologie. François insiste aussi sur l'importance des théologiens. C'est pas dans cette maison qu'on va dire le contraire de toute façon. Mais il insiste donc dans cette vision dynamique d'une foi qui se travaille, qui se discute, dont il faut débattre, qu'il faut partager. Et il a ces phrases qui sont maintenant très connues, qu'il veut une église qui court le danger de se salir avec le bout de la route et où tous participent à l'annonce de l'évangile. Pour cela, bien évidemment, il dit aussi qu'il faut se concentrer sur l'essentiel de l'évangile, qui invite avant tout à répondre à Dieu qui nous aime et qui nous sauve, en le reconnaissant dans les autres, en sortant de nous-mêmes pour chercher le bien pour tous. Donc il a une idée que cet évangile est quelque chose de dynamique et que nous sommes tous partie pris. Et dans cette vision qu'il a de cette église missionnaire, et qui repose sur ce trépied, la hiérarchie, les fidèles et les théologiens, il le met finalement déjà largement en œuvre dans le synode. Parce que qu'est-ce qu'il a fait avec les synodes? Il a d'abord envoyé à deux reprises un questionnaire, envoyé aux évêques, mais en leur demandant de consulter très largement le peuple de Dieu. Et en France, comme dans plein d'autres pays, des gens se sont réunis autour de ces questionnaires qui n'étaient pas forcément évidents parce que la formulation restait parfois très romaine. Mais les gens ont manifesté de l'enthousiasme. Les gens étaient contents d'être consultés. Les gens avaient envie de discuter. J'avoue que j'ai été agréablement surpris parce qu'on aurait pu croire que les gens disent « Bon, ce que l'Église dit sur la famille, on le sait déjà, ça ne nous intéresse plus. » Non, non. Les gens sont intéressés. Les gens étaient heureux d'être consultés. Et il y a plein d'endroits où les petits groupes qui se sont constitués veulent continuer à discuter en église de la famille. premier petit pas, des laïcs qui se prennent en charge et qui discutent, premier petit pas de la vision missionnaire du pape François. Et puis, il a réussi aussi, et c'est assez extraordinaire, à faire dialoguer les évêques. Ne le prenez pas mal, monseigneur.
Vous interprétez ma pensée.
C'est pas que les évêques n'en soient pas capables, bien évidemment. Mais pour avoir assisté aux assemblées plénières des évêques, on sait que c'est un exercice un peu particulier. Parce qu'ils sont tous pères, P-A-R, tous patrons, tous célibataires. Ça colore un peu les gens, les discussions. Mais ils sont aussi tous tenus à rester en communion. Alors, comme c'est quand même tous des messieurs qui ont leur personnalité, etc., et qui peuvent avoir des légitimes divergences, eh bien, ils l'expriment de façon extrêmement feutrée. Parce que personne ne veut briser la communion, et c'est très bien, et c'est, en plus, c'est quelque chose de très difficile. Je suis à la fois très admirative devant cet exercice où des gens qui ont des convictions essayent de s'exprimer de telle façon à ce que les autres peuvent s'y retrouver, etc. Parfois, c'est vrai que ça me démangeait de secouer en disant « Vous ne pourriez pas vous exprimer un peu plus franchement pour qu'il y ait plus de débat ?» Mais bon, c'est ainsi. Mais donc, le pape a été très fort, là, parce qu'il a dit au début « Je veux que tout le monde s'exprime avec franchise et que personne ne repart sans avoir dit ce qu'il pensait. » Et il s'est porté garant de cette communion en disant « Cette discussion se fait sous Petro et cum Petro. » La famille latine qui dit « Je suis là en tant que pape, ne vous inquiétez pas, je me porte garant. » Et donc il y a eu une beaucoup plus grande franchise que d'habitude dans ce synode. Et je pense que là aussi, hier, il a dit très clairement, il a dit aux pères synodaux « Il faut du courage apostolique, de l'humilité évangélique et une prière confiante pour que l'Esprit Saint puisse faire son travail. Vous n'êtes pas dans un parlement. Il ne s'agit pas de... voir majorité-minorité. Et quand vous regardez la presse, ils sont tout le temps en train de regarder ça. Il y a le camp des progressistes, le camp des conservateurs, chacun a ses champions, comment va se passer la bagarre. Non, ils rompt avec ça. Hein, il dit, c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire. Donc, là aussi, en faisant progresser le dialogue à l'intérieur de l'Église, entre les évêques, c'est un deuxième petit pas dans la direction de l'Église, son Église missionnaire. Et puis, aussi, dans ces discussions, il implique les théologiens. Les conférences épiscopales ont été invitées à consulter les théologiens. Beaucoup de théologiens ont fait des apports à ce synode. En France, je ne sais pas si tu as le livre à portée de main. Non, je ne l'ai pas amené non plus. Ah, toi, tu l'as. Très bien. On a fait travailler des théologiens et vous avez ce bouquin avec 26 théologiens qui répondent à 16 questions, qui donnent des éclairages divers. Ça permet de voir d'abord une belle contribution de la théologie francophone, parce qu'il y a aussi des Belges et des Suisses, mais ça permet aussi d'élargir le débat. Et fut un temps où les théologiens étaient surtout invités à expliciter ce que le magistère avait dit. François ouvre de ce côté-là à la possibilité pour diverses écoles théologiques de s'exprimer. Et c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se tromper, les théologiens. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui ont le dernier mot. Mais ça permet, encore une fois, ce débat, cette conversation qui perdure. Donc, cette diversité des écoles théologiques, troisième petit pas dans la direction indiquée par François. Et puis enfin, l'Instrumentum Laboris le montre très clairement, on part de la réalité. On n'est plus avec une famille idéale, mais on part de la réalité, des difficultés réelles des personnes, et à partir de là, on voit comment on peut la rejoindre, comment l'Évangile peut la rejoindre. Donc, voilà, c'est quand même un grand changement dans l'Église. Enfin, c'est un changement, oui et non. J'ai encore combien de temps, François ? Oui et non, parce qu'on a l'impression de dire que pour la famille, c'est un changement énorme, qu'on était toujours avec un discours idéal où on a tous beaucoup de mal, et je le dis du haut de mes 36 ans de mariage, on a quand même du mal à se caler vraiment là-dedans. Trop idéal, qui décourage les uns les autres, trop loin. Et alors, quand on regarde à côté de ça, l'Église a toute une pensée sociale où elle est complètement habituée à regarder la réalité en face, ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'elle regarde le monde en face, Elle fait dans le domaine social. Et elle fait appel aux sciences sociales pour comprendre la société. Et sa parole se laisse influencer par ce que pensent et ce que travaillent les gens dans la société. Mais ça, c'est dans le domaine social. Et alors pour la morale individuelle, eh ben, je ne sais pas pourquoi, elle a suivi une autre voie. Alors si j'étais mal intentionnée, je dirais qu'au fur et à mesure qu'elle perdait le contrôle sur la société, elle a voulu garder le contrôle sur la vie personnelle, mais c'est peut-être très mal vu. J'avoue que c'est une interrogation que j'ai. Pourquoi l'Église a été capable d'intégrer la modernité, enfin, elle a mis du temps aussi, hein, mais pour tout ce qui est morale sociale, et pourquoi elle n'arrive pas, ou n'arrive pas encore, à le faire en matière de morale individuelle. Il y a bien un jésuite qui a dû étudier cette question, non?
Sûrement.
Ouais. Voilà. Donc, quelle que soit l'issue du synode, encore une fois, il n'y aura pas de changement spectaculaire. Il y aura certainement des choses qui bougent parce que la discipline des sacrements, ça reste du droit. Et le droit peut toujours évoluer. Et on peut faire évoluer la discipline des sacrements sans toucher probablement à l'indissolubilité du mariage. Enfin, je pense qu'avec un peu de créativité théologique, on peut le faire, mais Étienne est nettement plus doué que moi pour parler de ces choses-là. Donc il y aura des choses certainement qui vont bouger, même si le cœur du message reste, et personne ne voudrait que le cœur du message ne reste pas. Mais ce que j'inviterais chacun de regarder, même s'il peut être déçu à un moment donné, ou même s'il trouve que ça avance lentement, de regarder déjà tout ce que justement le pape fait bouger déjà, en impliquant les laïcs, en ouvrant la parole théologique, et en nous disant tous que nous sommes tous responsables de cette image d'Église que nous donnons vers l'extérieur, et que l'essentiel est là, c'est d'aller vers ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Je vous remercie.
Merci Monique. Visiblement, le passage à la conférence des évêques ne vous a pas retiré votre liberté de parole. Et c'est heureux. Oui, oh, je crois qu'elle était encore. Elle était là quand même les années avant. Et vous nous avez bien dit, et je crois que c'est important de l'entendre, qu'au-delà des vraies questions, et Étienne va revenir sur l'une de ces questions, peut-être plus précisément dans un instant, des vraies questions qui sont en débat actuellement, eh bien, vous nous invitez à finalement entrer dans le regard et la manière de faire du pape François, qui nous fait partir de plus large, d'une Église en dialogue, avec ce que ça signifie très concrètement, de laisser l'Esprit-Saint travailler, une Église aussi missionnaire, où chacun prend sa place, hiérarchie, laïque, théologien, et une Église aussi qui part de la réalité. Alors, Étienne est un théologien qui part de la réalité, et qui va peut-être illustrer l'importance du rendez-vous de ce synode à partir d'un certain nombre de questions peut-être les plus disputées. Étienne, tu as la parole.
Merci, merci François. Oui, je vais plus se centrer sur la question de l'accueil des divorcés remariés dans l'Église. Voilà, ça fait partie des questions disputées. Monique disait que c'était important de ne pas tout centrer là-dessus, mais c'est important aussi d'en parler vu que c'est un sujet quand même très important pour beaucoup de personnes. Voilà. En préalable, je voudrais dire que ce que je vais dire ne prétend pas être une parole définitive, mais simplement une contribution modeste et limitée. Et je voudrais le faire dans un esprit de discernement, en cherchant avec l'Église ce à quoi le Seigneur nous appelle aujourd'hui sur ces questions. Voilà, et je suis par avance disposé à accueillir ce que les pères du synode déclareront, c'est vraiment la moindre des choses, de même qu'à faire mien ce que le pape François écrira dans son exhortation post-synodale. Alors je vais parler de cette question de la place des divorcés remariés dans l'Église, car c'est une question qui a provoqué beaucoup de débats, et je crois qu'on ne peut l'esquiver. Voilà. Encore une fois, c'est important de ne pas uniquement focaliser sur ce thème, et le synode, bien sûr, ne se contentera pas de réagir à des situations difficiles, mais je crois qu'il invitera tous les catholiques à redécouvrir le mariage comme don de Dieu, et signe pour le monde. Voilà. Alors, sur cette question de la place des divorcés et mariés dans l'Église, est-ce que l'on pourrait parvenir à un consensus? Parce que vous savez que c'est, on pourrait dire, c'est la manière d'avancer de l'Église. Il ne s'agit pas de la victoire d'un camp sur un autre, mais de sortir de ce qui fait problème par le haut, on pourrait dire, en trouvant ce qui nous unit par-delà les divergences d'appréciation ou de sensibilité. Il me semble que sur cette question, un tel consensus n'est pas impossible à trouver. Tout d'abord, je rappelle que personne, pratiquement, ne met en cause l'indissolubilité du mariage. Et de fait, cette caractéristique du mariage pour les chrétiens est très importante. Elle renvoie directement à l'alliance par laquelle Dieu s'est engagé vis-à-vis de l'humanité. Et cet engagement, il est définitif, il est sans retour, comme le Christ l'a montré dans sa passion. Si nous tenons à l'indissolubilité du mariage, ce n'est pas au nom d'un ordre moral à défendre, ni d'un idéal à promouvoir. C'est parce que nous croyons que l'humanité a la possibilité d'accueillir cette alliance, d'être portée par elle, et de pouvoir à son tour la porter, la rendre sensible à travers ce qu'elle vivra. L'humanité n'est pas destinée à rester spectatrice de l'alliance, sinon d'ailleurs ça ne serait pas une alliance, hein ? Mais elle est destinée à y entrer et à lui faire réponse, c'est-à-dire à vivre selon les logiques de l'alliance. Alors je crois que vous savez sans doute qu'il y a un petit passage de l'Épître aux Éphésiens, c'est au chapitre 5, le verset 32, qui a joué un rôle important pour aider à reconnaître le mariage comme sacrement. L'auteur de la lettre établissait une comparaison entre le mariage et la relation du Christ à l'Église, et il emploie le terme de « mysterion » en grec, qu'on a, disons, c'est traduit dans le petit bout de phrase « ce mystère est grand », il parle de cette union, hein. Et « mysterion », c'est un terme promis à un bel avenir en théologie, puisque c'est lui qui sera traduit en latin par « sacramentum ». Alors vous voyez, ce texte notamment a joué un rôle très important pour permettre de regarder l'engagement réciproque d'un homme et d'une femme comme une analogie de l'alliance établie entre Dieu et l'humanité. Et à partir de là, on peut dire qu'un couple, une famille, sont signes de cette alliance. Ils la rendent sensible, ils la donnent à voir, à sentir. Ils en font une réalité concrète, palpable. J'ajoute que dire cela ne revient pas, pourtant, à faire une sorte d'équivalence stricte entre mariage et alliance divine. Tout simplement parce que ça serait oublier que nous ne sommes pas Dieu. Et que dans nos alliances à nous, il y aura toujours des choses qui ne viennent pas de Dieu aussi. Il peut même y avoir de la violence. Il peut y avoir des cachotteries. Il peut y avoir de la manipulation qui provoqueront des blessures et qui appelleront la reconnaissance de ce qu'on pourra nommer péché, et qui appelleront le pardon. Dire cela, je crois, n'est pas inutile, car ça évite d'idéaliser le mariage chrétien. Si les familles chrétiennes sont signes de l'alliance, elles le sont de manière imparfaite. Et ça veut dire qu'elles le sont aussi dans la reconnaissance de leur faiblesse. Et puis, elles le sont dans une histoire. Le signe qu'elles sont, elles ont aussi à le devenir. Tout ne se joue pas le jour de leur mariage. C'est toute leur existence qui sera appelée à déployer le mystère de l'alliance. Comme image pour mon ordination, j'avais choisi un détail d'une gravure de Rembrandt qui s'appelle « La pièce aux 100 florins ». Et j'avais choisi un détail où on voit un vieux couple qui a l'air tout usé, tout brinque-ballant, où l'un s'appuie sur l'autre, on ne sait pas qui s'appuie sur l'autre, mais je l'avais choisi en disant que pour moi c'était une très très belle icône, disons, de l'alliance et partant du Christ. Voilà. Alors aujourd'hui, souligner cette vocation du mariage à être signe de l'alliance conduit les chrétiens, il faut le reconnaître, à se situer souvent en rupture par rapport à des idéologies qui ont tendance à faire des liens humains, et parmi eux les liens matrimoniaux, une sorte de variable d'ajustement, qui devient donc secondaire par rapport à ce que je vois comme étant mon épanouissement personnel, mon intérêt ou mes besoins. Étant appelés à vivre selon les logiques de l'Alliance, les chrétiens sont ainsi engagés dans un combat de résistance à ces idéologies, qui ne sera pas toujours facile pour eux. Et Dieu sait que cette logique d'Alliance est précieuse aujourd'hui, et parce que c'est une denrée rare. Voilà, donc ça c'est un premier point qui fait largement consensus. Et là-dessus, si on peut dire, rien de très nouveau. Ici, le synode devrait surtout nous aider à mieux prendre conscience du trésor que tout cela représente. Voilà. Un deuxième point touche la situation des personnes dont le mariage scellé à l'Église a échoué et qui, suite à cela, se sont remariées, avec donc la question de leur place dans l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas accès au sacrement parce que le deuxième lien qu'ils ont établi après le premier peut être considéré comme une relation extra-conjugale, puisque le premier lien, indissoluble, est considéré comme étant le seul possible, le seul valide. Voilà. Cela les met donc dans une situation, je cite le droit canon, de persistance obstinée dans un état de péché grave. Voilà. Et ça, c'est un positionnement qui ne permet pas de recevoir les sacrements de réconciliation, ni celui de l'Eucharistie, ni aucun sacrement. Je crois que sur ce point-là, l'Église peut bouger, en reconnaissant que ce deuxième lien ne peut être purement et simplement assimilé à un adultère permanent, en reconnaissant que souvent, il ne peut être réduit simplement et purement au péché, en reconnaissant qu'à travers ce deuxième lien, il y a des personnes qui tentent de reconstruire quelque chose après un échec qui a été le plus souvent très douloureux pour elles, et qu'elles ont parfois d'ailleurs subi et non causé. Hein ? Voilà. Alors, est-ce que nous pouvons reconnaître cela dans l'Église aujourd'hui ? Moi, je crois que oui. Et je dirais, il suffit de regarder ce qu'on fait dans la pratique. Dans la pratique, nous n'exigeons pas des personnes divorcées et remariées qu'elles se séparent. Car nous sommes conscients, et c'est le minimum, c'est le bon sens minimum, que cela ne ferait qu'ajouter une nouvelle rupture à la précédente. Ce que nous leur souhaitons, même si souvent nous n'osons pas le dire, c'est que ce deuxième lien, une fois les traumatismes liés à l'échec du premier, que ce deuxième lien réussisse. Et si nous voyons ainsi ce deuxième lien, c'est bien que nous ne le réduisons pas à du péché. Ce deuxième lien n'est pas pur péché. Bien sûr, il y a eu péché. Bien sûr, il y a eu rupture d'alliance, sauf quand un conjoint a été purement et simplement abandonné. Il faut le reconnaître et il faut demander pardon pour cela. Mais cette rupture d'alliance n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas le dernier mot, car la Bible est pleine de ruptures d'alliance, et ce n'est pas la fin de l'histoire du salut. La fin de l'histoire du salut, son dernier mot, c'est la Pâque du Christ, qui dit que l'engagement de Dieu est plus fort que tous nos échecs et que toutes nos ruptures d'alliance. Beaucoup de personnes qui ont divorcé après un mariage sacramentel et qui se sont remariées ensuite vivent dans la conscience d'un échec, et elles savent bien que le deuxième lien n'efface pas ce qui s'était engagé auparavant. Elles vivent, je pense, ce deuxième lien comme une tentative de reconstruction après un tremblement de terre. Et il me semble que l'Église peut reconnaître cela. Ce qui suppose d'admettre que ce deuxième lien n'est ni pur péché, ni non plus sacrement. Alors ça, c'est nouveau. Il faut le dire, il faut le reconnaître, par rapport à une tradition multiséculaire, mais ce n'est pas non plus entièrement absent de la tradition de l'Église, puisque dans les premiers siècles de notre histoire, on a, à un moment donné, considéré les remariages des veufs de cette façon-là, comme un lien matrimonial qui était non sacramentel et qui était en même temps légitime, c'est-à-dire qu'on ne qualifiait pas comme péché. Voilà. Alors, autour de ce point-là que je viens de nommer, je crois que se trouve le point le plus difficile, et c'est cela qui pourrait empêcher que se dégage un consensus lors du synode sur la question de l'accueil des divorcés en mariés et de leur accès à l'Eucharistie, au sacrement de réconciliation. Voilà. Il me semble en tout cas qu'il devrait être possible de se retrouver sur une telle perspective, qui ne reviendrait pas à avaliser le divorce ni à le banaliser. Au contraire, je crois que ça serait l'occasion à chaque fois de vivre une démarche pénitentielle, c'est ce que proposait le cardinal Walter Kasper dans son texte, hein. Et donc de reconnaître qu'il y a eu une faute grave, c'est vrai, hein. Mais ça reviendrait à dire que celles et ceux qui, après un échec dans leur mariage, ont tenté de reconstruire quelque chose, ne sont pas pour autant exclus des promesses de l'Alliance, et qu'à cause de cela, elles demeurent invitées à participer à l'Eucharistie et à célébrer le sacrement de réconciliation. Parce qu'on a besoin de le signifier, de rendre ça sensible, qu'on participe des promesses de l'Alliance. De fait, cette modification de la discipline toucherait moins le sacrement du mariage que les sacrements de la réconciliation et de l'Eucharistie. Et ça supposerait de les voir d'abord, on pourrait dire, comme des remèdes ou bien comme une nourriture, plutôt que comme un point d'aboutissement qui supposerait qu'on soit vraiment digne de les recevoir pour pouvoir les célébrer. J'avais beaucoup aimé Ingrid Betancourt quand elle avait été libérée après 6 ans d'otage. Elle avait eu un entretien avec le pape Benoît et elle avait fait cette petite déclaration parce qu'elle, elle est divorcée et mariée. Elle avait dit, mais l'Eucharistie, c'est pour nous les pécheurs. C'est nous qui en avons besoin. Voilà. Donc l'Eucharistie, c'est une nourriture, c'est un remède. Et ce n'est pas seulement une fois qu'on est parfaitement, disons, digne de l'Eucharistie. Qui peut se prétendre digne d'ailleurs de l'Eucharistie ? Une deuxième chose que toucherait cette modification de la discipline, je pense que ça serait de penser d'abord en termes de communauté chrétienne, d'église, et non pas uniquement à l'échelle du croyant. Cela soulignerait que c'est d'abord l'église qui est signe de l'Alliance. Et ses membres sont invités, bien sûr, chacun là où ils sont, à vivre de cette alliance et à la faire rayonner. Mais quand ses membres n'ont pas pu tenir leurs engagements, eh bien tout ne retombe pas sur leurs seules épaules. Il y a l'Église qui est là et qui leur dit d'une certaine manière, vous savez, personne n'est vraiment digne de l'Alliance. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur continue à nous faire confiance comme Église pour porter ce signe de l'Alliance. Autrement dit, l'Église, dans ce cas, c'est comme si elle disait « Votre situation est en quelque sorte débordée par la grâce. En tant que membre de cette Église, vous êtes toujours appelé à porter avec elle la promesse de l'Alliance et donc à la vivre pour vous aussi. » Voilà. Si on raisonne en étant guidé avant tout par le souci que l'Alliance scellée en Christ entre Dieu et l'humanité puisse être proclamée et entendue par nos contemporains, alors il me semble que cela conduit effectivement à réviser notre discipline en ce qui concerne l'accueil des divorcés mariés au sacrement. Car quand nous ne leur permettons pas l'accès à l'Eucharistie, est-ce que nous ne sommes pas en réalité en train d'alimenter l'idée que les ruptures qu'ils ont vécues et qu'ils portent dans leur histoire sont insurmontables et qu'elles pourraient même avoir raison de l'amour de Dieu, qu'elles seraient en quelque sorte plus fortes que l'amour de Dieu? Est-ce que ce faisant, nous n'affaiblissons pas la puissance de l'Alliance? Est-ce que ça n'affaiblit pas beaucoup le message que nous portons comme Église? Et au contraire, une Église qui dirait « c'est vrai qu'il y a des échecs, c'est vrai que chacun fait comme il peut pour vivre après de tels échecs, mais la force de l'Alliance est infiniment supérieure à ceci et nous le manifestons en invitant à l'Eucharistie les personnes qui ont divorcé et se sont remariées après un temps de pénitence et de jeûne eucharistique, comme le proposait le cardinal Walter Kasper. Une Église qui dirait cela donnerait une belle vigueur à l'Alliance en mettant au premier plan son caractère inconditionnel et le fait que sa réalité et sa validité ne sont pas diminuées par nos échecs ni nos manières de les assumer. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Étienne, de ta contribution à cette question sensible de la place des divorcés remariés dans l'Église, avec le désir d'arriver à un consensus en trouvant ce qui unit au-delà des divergences, en soulignant la vocation du mariage à être signe de l'alliance et en présentant là où l'Église peut bouger et les conséquences que cela pourrait entraîner. Alors, vous pourrez retrouver cette contribution, cette analyse d'Étienne dans l'article d'étude du mois de septembre. Et nous allons pouvoir maintenant, après avoir entendu nos trois intervenants qui, par leurs paroles personnelles, nous ont, je crois, bien aidés à percevoir un certain nombre des enjeux d'une parole d'Église à travers ce synode, eh bien, nous allons continuer le débat ensemble en faisant circuler la parole. Je vois que le micro est en train de se préparer. Alors, réaction, question, demande de précision. Voilà. Et à chaque fois, on essaye d'avoir... Brigitte ? Levez la main. On essaye d'avoir des questions ou des remarques simples et brèves. Hein? Et on attend le micro pour parler.
Combien de minutes est-ce que vous m'accordez?
Ah non, pas de minutes, on ne parle pas en termes de minutes.
Non,
vous parlez brièvement.
Parce que justement, je voudrais seulement dire, ça qu'est-ce que j'ai tous remarqué, qui est l'Église? C'est le Christ. Qui est le centre, qui est le roc? C'est la parole qui fonde l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Tout est... Si on ne connaît pas l'Évangile, si on ne vit pas l'Évangile, c'est pas seulement connaître le mot, il faut vivre l'Évangile pour être proche du Christ. Comment voulez-vous que maintenant les gens comprennent le mariage s'ils n'ont même pas une idée de ce que ça représente, comme le père dit, j'étais hier à l'église, Dantin, le prêtre parlait de l'alliance. Comment voulez-vous qu'ils comprennent s'ils ne comprennent pas l'amour débordant du Christ? Il faut approcher les gens vers le Christ pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'est le Christ. Évidemment, pour moi, c'est la parole. Je ne sais pas comment je peux le développer, parce que nous savons très bien.
Mais je crois qu'on a bien aperçu ce point central de votre foi, qui est aussi la foi de l'Église, donc dans le Christ, par lequel... Très bien. Merci beaucoup. D'autres remarques, questions? Alors, attendez, on va attendre que le micro arrive jusqu'à vous. Alors, on va peut-être pas répondre tout de suite. On va prendre peut-être... On a bien entendu la question de la faute. Est-ce qu'il y a d'autres... Voilà, devant.
Mais ce que le père Grieux dit, au fond, c'est l'orthodoxie le dit depuis longtemps, ça, hein. J'ai une expérience dans l'orthodoxie, puisque ça fait 30 ans que je fréquente une paroisse. On marie, comment dirais-je, la vérité avec la miséricorde. Hein. C'est un problème de miséricorde avant toute chose. Hein. Et ça ne met pas en doute le problème de la dissolubilité du mariage. Et ça facilite beaucoup les choses. Seulement, nous sommes dans un contexte occidental dans lequel on a la manie de toujours tout conceptualiser. Les fonctionnaires de Bruxelles nous informent de normes, mais les fonctionnaires de la Curie font exactement pareil.
Même combat. Très bien, merci. Peut-être, Étienne, est-ce que tu veux répondre? D'abord, est-ce que tu es devenu orthodoxe ou non? Et puis...
Alors, c'est vrai que les orthodoxes ont une discipline différente de la nôtre hein, depuis très longtemps. Je pense que ça dépend aussi de la manière dont des théologiens explicitent la chose. Mais moi, ce que j'avais retenu, c'est que souvent, les théologiens orthodoxes considèrent que quand il y a eu un échec d'un mariage, c'est comme si le mariage n'existait plus d'une certaine manière. Alors, ce n'est pas tout à fait la position que j'ai défendue. Parce que moi, si on tient vraiment à l'indissolubilité, le premier lien reste le lien, dans lequel on s'est engagé sacramentellement, voilà. Hein? Ça serait une petite différence par rapport à... Alors, maintenant, je ne sais pas, selon les différentes autorités qu'il y a dans l'orthodoxie, comment les choses sont déclinées.
Ce qui fait le fondement du mariage, c'est l'amour. Bon, alors si l'amour n'existe plus, qu'est-ce qui se passe?
Ben oui, mais... ça, c'est une question très, très importante, hein. Yeah. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus réduire le lien simplement à l'amour. Hein? Il y a quelque chose d'un engagement d'un engagement qui, je crois, est, disons, vécu comme un sacrement, nous donne beaucoup de quoi dépasser des difficultés, des moments de désert où justement on pourra ne plus sentir cet amour-là. Hein. Mais il y a quelque chose d'un engagement, et je crois qu'il y a quelque chose de très très fort là-dedans. C'est le fait d'engager tout son être et sa vie vers quelqu'un. Voilà. Et ben ça, quand on ne ressent plus à un moment donné l'amour, pour moi et pour l'Église catholique, ça reste. Hein, voilà. Sinon, je voulais répondre, peut-être répondre à la première question sur où est la faute.
Hein.
Alors en fait, la faute, elle est des deux côtés, si on peut dire, du côté de la rupture d'alliance, et c'est peut-être la faute la plus douloureuse, celle qui vraiment est très très pénible à vivre souvent. Et disons, à cause de cette conception de l'indissolubilité du premier lien, le remariage est considéré aussi comme un lien extra-conjugal, si vous voulez. Et c'est pour ça que dans la discipline actuelle, il équivaut à l'adultère, en gros. Hein? Voilà. Et du coup, alors le problème de ce deuxième lien, c'est qu'il devient, lui, tant que le mariage de deuxième lien dure, c'est une faute à répétition, vous voyez. Ouais. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas l'accès au sacrement. Alors qu'après un divorce, il n'y a pas du tout, il n'y a aucun problème pour continuer à recevoir l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation. Hein. Voilà. Alors là, il y a une manière, je pense, de fonctionner, on peut dire, de la doctrine qui est un peu mécanique. Ouais. Et du coup, c'est là que ça provoque beaucoup de douleur, parce que des personnes disent, mais en fait, moi, je ne peux pas faire équivaloir ce deuxième lien avec simplement un adultère continu, quoi, voyez.
J'ajoute juste pour complexifier la chose qu'ils peuvent avoir accès au sacrement s'ils vivent comme frères et sœurs. Je ne sais pas si ça clarifie les choses.
Non, je crois pas. Bon.
C'est...
Excusez-moi.
Mais en fait, il faut le dire, parce que c'est là où on voit bien la complexité, pour ne pas dire l'absurdité, de la position. Et comme l'a fait remarquer des jeunes à qui on disait ça, mais ah bon, parce que alors l'Église est pour l'inceste. Donc, c'est vraiment plus compris, ça.
Alors, on va prendre une question qui vient de Bordeaux, puisque Bordeaux nous suit attentivement. Oui, parle bien fort. Si ça marche, mais il faut parler bien fort. Voilà, je me fais l'écho de...
Lors de la précédente session du synode, on a entendu des journalistes dire qu'il s'était terminé sur un échec. Que répondriez-vous à ces journalistes de manière à ce qu'ils ne se méprennent pas sur les objectifs de la session à venir?
On va peut-être prendre une autre. Il y avait une question au troisième rang et puis il y en aura une ensuite au premier rang. On peut faire passer le micro, merci.
En Afrique, quand on baptise une personne, on commence par lui dire de ne pas être polygame, ce qui est dans la tradition du pays. Alors comment peut-on faire? Deux façons de voir, refuser la polygamie en Afrique et accepter une polygamie successive. Chez nous, ça va faire un divorce dans l'Église.
Très bien, je crois qu'on... D'accord, on a vu la comparaison des deux situations. Merci. Troisième... Le micro arrive.
Le synode n'est pas un parlement. Le pape l'a redit hier. Je trouve que c'est un peu méchant pour les assemblées civiles, parlementaires ou politiques. Mais enfin bon. Alors l'Esprit Saint est là. Nous n'en doutons pas. Mais est-ce que c'est le plus petit dénominateur commun qui sera recherché et que l'on pourra baptiser sous l'influence de l'Esprit-Saint, pour que ça soit voté à la quasi-unanimité? Alors ma question est, peut-on avoir aujourd'hui une parole universelle avec des normes juridiques mondiales?
Merci.
Et en cela, Monseigneur, les conférences épiscopales ont-elles du travail?
Monseigneur, en tout cas, vous avez la parole.
Je répondrai d'abord sur la déception des journalistes. Il y avait cette question-là l'an dernier. La déception, on peut aussi la comprendre dans une mauvaise compréhension de ce qu'était ce premier synode, qui n'était même pas la première étape, puisque la première étape, c'était d'abord le travail local qu'il y a eu dans les diocèses, tous ces groupes que mentionnait Monique Bochard. Ce synode de Londonie, celui-ci, qui ne se terminera pas, qui ne terminera pas vraiment son travail avant le texte que le pape donnera dans un délai qui lui appartiendra. Donc en effet, on est inscrit dans un processus assez long et il ne faut pas attendre à la fin de ce mois d'octobre des conclusions définitives qui seront formulées par le pape, bien sûr tenant compte du travail du synode. Oui, attendez, rappelez-moi les questions.
Oui, ben, la question sur l'Esprit Saint. Oui. Le plus petit dénominateur commun.
En effet, il peut y avoir une difficulté dans ce genre d'assemblée qui est d'être un petit peu une sorte de moulinette où au début il y a des expressions assez fortes et diverses qui s'expriment pour ensuite araser tout ce qui dépasse un petit peu et arriver à un discours, disons, bien lisse. Voilà. Je pense que ce n'est pas la volonté du pape. Hein, il l'avait exprimé au début du précédent synode, puis cette fois-ci également, hein, hier, en invitant à la parole assurée des évêques. Et donc, je crois qu'il y a vraiment une volonté que ce qui est dit ne soit pas une sorte de parole tiède, mais une parole forte. Et on peut peut-être faire confiance au pape François pour que l'exhortation apostolique soit une parole forte, même si les conclusions et les recommandations du synode peuvent être plus tièdes. Enfin là, je ne parle pas pour les autres. Quant au travail des conférences des évêques, là aussi, je sais que le pape François a invité les conférences épiscopales à aussi être des lieux de parole et de décision. Et ici, tout à l'heure, Monique Bojard évoquait son expérience aux assemblées de Lourdes, participant aux assemblées de Lourdes, mais aussi ayant participé au synode de 2012. J'ai constaté qu'au synode de 2012, il y avait finalement une liberté plus grande de parole des évêques entre eux. Parce que finalement, des évêques qui venaient du monde entier, on ne se reverra jamais et on ne peut pas aller assez librement. À Lourdes, on ne se voit pas. À Lourdes, on ne se voit pas tous les jours, mais on se voit assez souvent. Et donc, on fait un peu attention à ce que l'on dit. Mais il y a pire. Il y a pire que la parole un peu feutrée. Il y a le mutisme absolu. Et il peut y avoir des évêques qui ne parlent jamais. Alors ici, on se trouve, enfin, je déporte peut-être la question de la famille, ici, on se trouve aussi dans une question proprement ecclésiologique. On valorise l'église locale. Quel diocèse, hein, et voilà. Mais est-ce qu'il y a une réalité ecclésiale de plusieurs diocèses ensemble, province et même parvenir à l'église nationale, parce que là on va dire ça y est, on ressuscite le gallicanisme ou d'autres systèmes, et on voit bien que d'ailleurs il y a des questions aussi et des graves tensions. Vatican II, voilà, dans la fameuse nota previa, parle de cette question-là. Il y a un des textes sur les conférences épiscopales, et il y a sans doute de la part d'un nombre d'évêques la volonté que l'Église, c'est l'Église locale. Et les conférences épiscopales ne sont qu'un lieu de rencontre ou d'éclairage commun. Pour moi, j'estime que ce n'est pas juste. Et je pense que les conférences épiscopales doivent aussi être des lieux de réflexion, de paroles fortes, y compris dogmatiques, hein, bien sûr, dans la foi de l'Église. À mon avis, il n'y a pas trop de difficultés aujourd'hui. Mais je pense qu'elles sont en deçà, tout au moins celles que je connais, hein, en deçà du rôle qui pourrait être le leur.
Merci. Étienne, sur ce point, ou peut-être aussi sur la question du modèle, entre guillemets, africain.
Oui, par rapport à la question qui a été posée sur l'Afrique, la polygamie et nous, finalement, moi, je dirais que, d'une certaine manière, sous des formes très différentes, mais on est confronté un peu aux mêmes questions. C'est-à-dire que c'est pas facile d'engager vraiment sa vie vers quelqu'un et une seule personne. Voilà. Et à chaque fois, je pense que ça restera un combat avec lequel l'humanité, sans doute, n'en aura jamais terminé. Hein. Alors, en Afrique, ça prendra la forme d'essayer de sortir de ces formes de polygamie. Et pour nous, ça prendra sans doute la forme de vivre quelque chose de la fidélité, des mariages qui puissent durer. Hein. Alors maintenant, une autre question qu'on pourrait entendre à travers ce que vous avez dit, c'est est-ce que moi, ce que j'ai présenté avec ce deuxième lien qui serait reconnu, disons, comme non sacramentel, mais pour autant légitime, est-ce que ça ne met pas les gens en situation de polygamie? Parce que le premier lien, on dit, continue à, reste, à rester le seul, disons, lien sacramentel, hein, voilà. Et alors là-dessus, il y en a un deuxième qui vient. Est-ce que ça ne met pas en position de polygamie? Je pense que dire les choses de cette manière-là, c'est donner un tour un peu polémique au débat, parce que quand même, quand on parle de polygamie, bah, on pense à deux relations matrimoniales actives. Hein. Or là, il est clair que, disons, c'est après l'échec du premier lien, quoi, hein, voilà.
Le micro.
Voilà.
Oui. Disons,
tu reprends la question parce que...
Oui,
voilà.
Ce que dit la dame, c'est pas... Mais est-ce que par rapport aux églises africaines, on ne risque pas, ça ne risque pas de faire deux églises? Ça, c'est vrai que c'est une question importante.
On
risque de... Et c'est une des choses...
Oui.
Disons, c'est une des choses qui est apparue à l'occasion des débats sur le synode, c'est qu'il y avait une position africaine qui s'exprimait, qui tient des choses fortes, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est tous les évêques africains ou seulement quelques-uns, j'en sais rien. Mais ça, c'est un point délicat, c'est vrai. C'est un point délicat.
Voilà, on a vu ce point, merci. Alors, j'avais une question, Brigitte, en montant. Vous pouvez lever la main. Levez la main, monsieur. Voilà. Oui, et puis après, il y aura une question tout au fond de Jérôme Vignon.
Ma question est différente. J'ai l'impression d'assister à une conversation sur le couple. N'est-ce pas ? Est-ce que nous parlons d'un synode du couple ou d'un synode de la famille ? Depuis le début de la réunion, je n'ai pas entendu évoquer même la question des enfants. Or, il me semble que tous les problèmes, tout de même, doivent être étudiés en fonction des enfants, parce que c'est une des missions de la famille, c'est tout de même d'assurer la transmission, non seulement du savoir, mais aussi de la foi. Et alors, il me semble qu'il y a autour de cette notion des choses à dire.
Merci, c'est une question effectivement tout à fait importante. Jérôme Vignon, tout au fond.
Oui, merci, c'est une question qui s'adresse particulièrement à Monique Beaujard, et qui a bien, de manière un peu taquine, rappeler que l'Église est plus à l'aise dans le domaine des questions sociales, pour l'accueil des sciences sociales, qu'elle ne l'est parfois dans le domaine des questions familiales. Alors, tout ma question, le troisième terme, si j'ai bien compris, du prochain synode sur la famille, c'est la vocation de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain. S'agissant particulièrement de la vocation de la famille dans le monde contemporain, comment, de ton point de vue, et compte tenu de l'ouverture de l'Église aux questions sociales, donc d'éducation, de pauvreté, de santé, notamment de migration, qu'est-ce qu'on pourrait attendre venant de cette sensibilité sociale de l'Église à propos de la vocation sociale des familles aujourd'hui dans la société contemporaine?
Merci. Monseigneur, sur la question de... Voilà, on a beaucoup parlé du couple, mais peu de la famille. Voilà, c'est un synode couple ou un synode famille?
Si je peux me permettre un petit sourire, j'aurais envie de vous ordonner évêque assez vite fait et de vous envoyer au synode, parce qu'en effet, on a un bon nombre d'interventions comme celle-ci, et c'est juste, qui manifestent qu'un discours a été tenu, mais une question n'a pas été abordée. Et en effet, dans le propos, ici, il y a bien d'autres questions qui auraient dû l'être et qui le sont dans le synode. Hein. La question des enfants, il n'a pas non plus du tout été question du fait qu'on peut construire une vie humaine autrement que dans une vie de couple, une vie sociale dans le célibat. Et je ne parle pas uniquement du célibat des clercs, hein, et du clergé. Donc là aussi, il y a tout à fait d'autres dimensions d'une vie humaine en dehors de la seule vie de couple. Hein, et votre propos souligne cela. En effet, la question des enfants et l'enjeu, il y en a pas mal dans mon livre, de l'éducation, qui pour moi est l'enjeu prioritaire d'une société. hein, l'éducation dans la famille, mais aussi plus largement. Hein, c'est le rôle d'une société. Et vous avez raison de souligner, en effet, qu'il ne faut pas réduire le synode à cette question qui est importante, hein, cruciale, mais qui entend aborder toutes les questions de la famille, qui n'est pas que le seul fait du couple, des enfants, etc.
C'est vrai qu'on parle beaucoup du couple, mais quand on regarde l'instrumentum laboris, le document de travail donc, du synode, cette question du mariage revient tout le temps. Alors, pour vous répondre, pour répondre un peu à Jérôme, toute la question sociale est concentrée dans la première partie de l'instrument de travail. Là, on fait un inventaire, pas complet, mais quand même, on balaye assez largement tous les aspects de la vie de famille, à travers aussi les difficultés, donc la pauvreté, le chômage, les questions de handicap, les migrations, les violences, etc. Là, on balaye assez largement et on insiste sur ce rôle social de la famille, cette famille qui est, je dirais, un porteur d'une solidarité sur mesure dans la société qu'aucune institution publique ne pourrait jamais donner. Mais la deuxième partie de l'instrument de travail, qui est en principe sur la vocation de la famille dans l'Église et dans le monde aujourd'hui, est assez curieusement bâtie. Et on sent une Église qui dit, oui, mais attends, alors, oui, la famille, d'accord, mais enfin, elle a quand même la place du mariage et la place de l'Église. C'est pas clair. On sent qu'il y a un débat, là. On sent les tensions. Parce que, quand même, pour l'Église, ça a toujours été d'abord le mariage et après, on fonde une famille. Enfin, le mariage était le passage obligé. Et elle est bien obligée d'admettre aujourd'hui que ben, ça ne se passe plus comme ça. Mais elle a du mal. On sent ça dans le texte. On n'a pas vraiment envie de l'admettre. Et donc même la place de l'Église, bah oui, mais si les gens passent plus par nous, on sent toutes ces tensions. Et la vocation de la famille, elle est quelque part, j'ai plus le numéro en tête, elle paraît presque en filigrane pour dire que, bah oui, la famille, par la simple communion des relations, donne à voir quelque chose de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est pas ça la vocation de la famille, de nous donner à voir quelque chose de l'amour de Dieu? Et après, la troisième partie de l'instrument de travail qui est sur la mission de la famille, là c'est encore plus drôle si on veut. Vous avez la première partie de cette troisième partie où on est sur une église qui accueille, qui accompagne, qui est compatissante, miséricordieuse et tout ce que vous voulez. Et alors à la fin, elle dit, ah oui, mais attends, il y a ces normes juridiques et alors comment peut-on se débattre avec ça? Alors, on sent bien, à travers cet instrument de travail qui, à une première lecture, peut paraître très lisse et très beau, quand vous plongez un peu dedans, vous voyez un petit peu quand même que bah, tout le monde n'est pas d'accord et qu'il y a encore... Et que même pour l'Église, ce n'est pas facile d'admettre cette société moderne où elle est finalement mise de côté pour un certain nombre de gens. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, c'est pas, je ne m'en félicite pas. Mais voilà, il y a encore du travail à faire. Donc, je n'ai pas de réponse directe, Jérôme, à ta question, mais on voit bien que ce rôle social de la famille a été entendu, a été souligné, et toute la première partie, au moins, il fait droit. Et on voit bien que pour le pape, c'est quelque chose de très important, parce que la réalité, l'ordinaire de la famille, il y insistait encore dans son intervention hier, c'est ça qui, non, pas hier, son... ce qu'il a dit à la veillée samedi soir et à l'homélie dimanche, il revient chaque fois sur ce quotidien à prendre en considération.
Merci. On va prendre une dernière question au milieu de la salle. Voilà, levez bien, le micro va venir à vous.
C'est vraiment le... Enfin, je peux témoigner du... J'ai vraiment le bonheur de... Je fais partie d'une équipe de catéchuménat et je peux vraiment témoigner du travail de l'Esprit-Saint sur les 2 ans en suivant les futurs baptisés. Et je suis surpris de la manière dont on marie les couples et avec le peu de préparation. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un même parcours pour les couples avec une cérémonie d'accueil où ils pourraient vivre leur vie matrimoniale, on reconnaîtrait cet amour, il y aurait un cheminement vers l'alliance et suivrait ce cheminement, enfin, autant par rapport à l'histoire de chaque couple et qui pourrait permettre ensuite de recevoir les couples qui auraient une nouvelle alliance.
Merci. Donc la question de la préparation au mariage, c'est un point d'ailleurs sur lequel insiste beaucoup le pape François. Monique.
On a déjà suggéré que l'Église pourrait considérer la cohabitation comme un chemin de catéchumina pour avant le mariage. Mais elle ne parlerait plus que ce soit en fait une situation de péché objective à ce moment-là. C'est là où il faut quand même que... Mais il y a certainement ça, c'est cette préparation au mariage, mais aussi après l'accompagnement tout au long de la vie finalement. Il y a eu un sondage il y a quelques années qui a été fait pour ça, sur qu'est-ce que c'était le pèlerin qui avait fait ça. Je ne fais pas de publicité pour ça, mais qu'est-ce que vous attendez de l'Église? Et les gens avaient répondu, l'Église c'est important pour tous les rites de passage. Et quand la question était sur la vie de couple, je crois que 13% des catholiques pratiquants pensaient que l'Église pouvait apporter quelque chose. Donc certainement a-t-on à inventer des choses de ce côté-là.
Père.
Ce n'est pas une réponse, mais une pub pour le numéro d'études de ce mois d'octobre, où il y a un texte excellent d'Enzo Bianchi, qui dit en particulier qu'il n'y a qu'un seul absolu pour nous, c'est le Christ, hein, que toute autre réalité est sous le regard du Christ et est relatif au Christ, dont la famille, hein, qui n'est pas une sorte d'absolu, quel qu'il soit, même si c'est la plus belle chose qui soit, mais est relatif au mystère du Christ. Excellent texte d'Enzo Bianchi dans l'excellente revue Étude.
Voilà. Je vous assure qu'on n'a pas payé Monseigneur pour faire de la publicité pour la revue Étude. Mais c'est... Est-ce que la dernière parole sera aux théologiens? Enfin, tu sens-toi libre, hein, tu n'es pas obligé.
Par rapport à la question là.
Enfin, si tu veux dire quelque chose.
Non, moi, j'avais rien de très spécial à redire. Donc,
Bien. Voilà. Eh bien, écoutez, on va en rester là. Je remercie vraiment en votre nom nos trois invités pour leurs paroles. Nous allons. Nous allons suivre de près le travail du synode. Je crois que c'est aussi important que nous le portions vraiment dans notre prière. Vous trouverez donc à la sortie le numéro d'étude à votre disposition, numéro de septembre, où vous retrouverez les articles de Monique Beaujard et Étienne Grieux. Vous trouverez aussi des urnes où vous pouvez déposer votre libre participation aux frais. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle la date du 3 novembre pour la prochaine soirée d'éthique sur le thème de la conférence sur le climat. Va-t-on vraiment pouvoir changer les choses? Merci et bonne soirée à tous.